magazine des Nations Unies.
Environ 2,7 millions de déplacés internes ont été enregistrés au cours de l'année qui s'achève. L'heure est à présent au bilan de la situation humanitaire dans le pays, d'après le coordonnateur humanitaire en RDC. Et puis, plus de 3 millions d'enfants congolais ne vont pas à l'école. Que faire pour pallier à ce constat amer fait par l'UNESCO? C'est l'une des questions auxquelles répond notre invité de ce dimanche, le représentant de cette institution onusienne en RDC, s'entretient avec Honoré Missenga Kalala. À la une également, la célébration de la Journée internationale des migrants. L'Organisation internationale pour les migrations RDC se mobilise davantage pour assister plus de 2 millions de personnes déplacées en RDC.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bienvenue dans votre magazine et bon dimanche chez vous. Moustapha Soumaré, coordonnateur humanitaire du système onusien et représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, a fait le point de la situation humanitaire. C'était au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies, mercredi à Kinshasa. Bonjour Honoré Missenga Kalala.
Bonjour Mireille Mukendi Bukasa.
Vous étiez à la conférence de presse et Monsieur Soumaré a en fait présenté le bilan de la situation humanitaire en RDC. Quels sont les faits saillants de ce bilan?
Écoutez, ce qu'on peut retenir d'emblée, c'est qu'à peu près, vous l'avez dit d'ailleurs, près de 2,7 millions de déplacés internes ont été enregistrés sur toute l'étendue de la RDC en 2014, dont 261 000 pour le seul mois de juillet, des déplacés pour la plupart chassés par les conflits armés dans l'est du pays.
Et quels étaient les grands défis pour les humanitaires au cours de l'année 2014?
Il y a eu deux défis majeurs, le défi d'ordre sécuritaire d'abord, et ensuite celui des difficultés d'accès dans les zones d'intervention. Je propose à ce sujet de suivre les propos de Moustapha Soumaré lui-même.
Du point de vue des défis que nous avons rencontrés au cours de l'année, c'est vraiment cet activisme qui a fait que vraiment il y a eu beaucoup de personnes qui sont déplacées et il y a eu en fait beaucoup d'accidents même sur les humanitaires. Par exemple, seulement au cours de l'année 2014, nous avons enregistré à peu près 188 incidents et vous savez, on a perdu 6 humanitaires, nationaux et internationaux, par le travail qu'ils étaient en train d'effectuer. Deuxièmement, le travail n'est pas toujours facilité par ce que j'appelle l'accès. Souvent, l'état des infrastructures ne favorise vraiment pas le travail humanitaire.
Venons-en maintenant aux réalisations. Le plan humanitaire 2014 était chiffré à 832 millions de dollars. À quelle hauteur s'est située la réalisation de ce budget?
Mireille, et sur les 832 millions de dollars, les humanitaires ont obtenu en 2014 environ 563 millions, soit une réalisation de 67%, un bon chiffre, a dit Soumaré, qui a permis d'entreprendre des activités dans divers secteurs, la sécurité alimentaire, l'hygiène, l'eau, l'assainissement, l'éducation et la santé. Et concernant notamment le secteur de la santé, le coordonnateur humanitaire des Nations Unies a rappelé le cas de la crise du virus Ebola. Les humanitaires ont pu y mobiliser 4,5 millions de dollars qu'ils ont mis à la disposition du gouvernement congolais pour faire face à cette maladie dont l'épidémie s'était déclarée dans la province de l'Équateur.
L'exercice 2014 s'achève et que prévoient les humanitaires pour 2015?
Oui, pour l'année prochaine, Soumaré parle d'un plan dont la demande financière est évaluée à 692 millions de dollars pour faire face à quatre domaines de crise déjà identifiés, les conflits armés dans l'Est, la malnutrition, les épidémies et les catastrophes naturelles.
Merci Honoré pour ces précisions.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
L'Organisation internationale pour les migrations, OIM, se mobilise aux côtés d'autres partenaires humanitaires pour venir en assistance à plus de 2 millions de déplacés internes, avec à la clé l'opération d'identification biométrique et l'accompagnement à la réinsertion des déplacés dans leur milieu d'origine. Autre réalisation, l'étude sur la mise en place d'un fonds pour des membres de la diaspora congolaise, candidats au retour. Roland Debeuc, directeur de l'OIM RDC, fait le tour d'horizon des réalisations de son organisation à l'occasion de la Journée internationale des migrants. Il est interrogé par Jean-Pierre Elali Ikoko.
Monsieur Debeuc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'OIM RDC et aujourd'hui la communauté internationale célèbre la Journée des migrants. Et les thèmes choisis cette année, c'est sauver les vies des migrants. Comment expliquer le choix de ce thème?
Le thème de cette année a été choisi par notre directeur général, M. William Lessier-Swing, qui a une vision globale de la situation des migrants à travers le monde. Et il constate une malheureuse évolution, c'est le fait que de plus en plus de gens se déplacent dans des conditions de plus en plus difficiles. On est à une ère de mobilité, de globalité, mais malgré tout, les gens bougent dans des conditions qui sont intolérables et beaucoup perdent la vie dans ces situations. Et le nombre de personnes décédées aujourd'hui, pendant l'année 2014, a atteint un pic. Et donc il était important pour une organisation comme l'OIM de mettre un accent particulier cette année sur le fait que, en tant qu'organisme intergouvernemental, nous devons engager les États membres, nous devons engager la société civile, mais aussi les migrants, à regarder les meilleures situations. Et donc le choix de cette année de sauver la vie des migrants, c'est un appel à tous pour dire donnons des opportunités, ouvrons les yeux sur des situations. Il est nécessaire d'apporter une assistance. Et chaque migrant qui meurt, c'est un migrant de trop qui meurt.
Dans votre discours de tout à l'heure, vous dites on n'est pas orphelin d'avoir perdu père et mère, mais d'avoir perdu l'espoir. Qu'est-ce que cela signifie dans les contextes actuels des migrants?
J'ai voulu faire passer un message positif, en fait. Pour la RDC en particulier, on parle depuis des années de guerre cyclique, on parle de déplacement de population. Et on oublie de mentionner qu'il y a des évolutions positives. Il y a un retour à la paix. Il est progressif, mais aucun pays du monde ne peut changer du jour au lendemain. C'est peut-être lent, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut garder cet espoir. Il faut qu'on se concentre sur les aspects positifs. Il y a d'importantes évolutions positives qui se font.
Les effets évolutifs que vous pouvez mentionner?
D'abord, le premier qui est important, c'est le fait qu'il y ait une reddition de certains groupes rebelles, qu'il y a un processus en cours pour la démobilisation et la réinsertion des anciens rebelles. Il y a un retour dans les zones. Pour la première fois depuis des années, des personnes déplacées à l'est du pays peuvent retrouver leur chez-soi.
Et justement, vous parlez de personnes déplacées. Et selon Oucha, actuellement en République démocratique du Congo, on enregistre plus de 2,7 millions de déplacés. C'est quand même énorme. Et alors, comment votre organisation, l'OIM, essaie d'accompagner le retour de ces populations dans des conditions acceptables?
Tout à fait. C'est très important de les accompagner et de modifier ce chiffre. Donc on a une approche qui veut d'abord être...
Modifier les chiffres, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que techniquement, nous mettons en place des mécanismes par lesquels nous enregistrons biométriquement les déplacés pour avoir une réelle idée de la situation. On se rend compte, par exemple, que dans certains sites, il y a un certain nombre de personnes qui sont enregistrées, mais elles se sont enregistrées sur plusieurs endroits, où elles ont été comptées plusieurs fois dans les déplacements. Donc ça veut dire que les chiffres de 2,7 millions ne sont pas réels. Il faut que nous ayons une meilleure vision. On se rend compte, en faisant cette approche d'identification, de profil personnel des familles et des personnes, que beaucoup de gens sont partis. Il y a des sites où on croit encore qu'il y a 85 000 personnes. En fait, on en trouve 4 000. Réellement. Alors où sont les 81 000 qui ont bougé? On retrouve leur lieu d'origine, on les retrouve là, et là on les accompagne. Il faut accompagner ces gens. Vous imaginez avoir quitté votre chez-vous pendant 10 ans. Vous arrivez sur place, peut-être votre maison a été détruite. Vous n'avez plus accès à vos terres, ni à vos champs. Tout ça doit s'accompagner. Il faut aider les gens. Il faut aider les personnes individuellement et collectivement.
Dans tout cela, c'est bien, mais qu'est-ce que l'OIM a fait, par exemple, cette année, concrètement, sur le terrain?
Donc, nos équipes ont des systèmes d'enregistrement biométrique. Donc, ils sont sur place. Ils enregistrent les personnes.
C'est où, précisément?
Tout ça, c'est dans le Nord Kivu, dans tous les sites de déplacement, avec nos partenaires. Donc, on ne fait pas ça seul, bien sûr. On travaille avec environ 70 autres organisations. Mais on enregistre, on revoit les statistiques. Et surtout, on accompagne le processus de retour en étant là, dans les villages d'origine. On organise des mécanismes d'assistance pour le retour à la culture. Donc, on donne des intrants. On forme les gens dans des pépinières pour qu'ils puissent reproduire la semence. On donne des outils. On crée un mécanisme aussi de réconciliation.
C'est un grand travail que vous faites là et vous ne travaillez pas seul. Et quelles sont les agences qui vous accompagnent dans ces travaux colossaux?
C'est un travail colossal, comme vous le dites, et on ne peut pas le faire seul, loin de là. Au contraire, on a environ 70 partenaires de la communauté humanitaire qui sont avec nous. Mais aussi, surtout, on accompagne le gouvernement. Un des principaux partenaires, c'est la CNR, la Commission nationale pour les réfugiés, qui est assise dans l'administration des déplacés, aussi maintenant dans la gestion des camps. On travaille avec les gouvernements provinciaux, avec les organisations des Nations Unies. Notre principal partenaire dans tout ce qui est gestion des personnes déplacées, c'est le HCR, bien sûr. Ce travail est effectivement colossal. Ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de présence. Et donc, ça ne peut se faire qu'avec des partenaires.
Un autre volet de votre intervention, M. Debout, c'est les migrants congolais à l'étranger, donc disons les Congolais qui veulent trouver asile ailleurs. Combien sont-ils de Congolais qui ont quitté le pays dans ces conditions de migrants?
Alors, les personnes qui ont demandé l'asile, donc c'est presque un demi-million de Congolais, donc 500 000, oui, un peu moins de 500 000 Congolais ont demandé l'asile ou obtenu le statut de réfugié.
Et dans quel pays sont-ils le plus nombreux?
Alors, le plus nombreux, c'est les pays voisins immédiats, c'est sur l'Afrique, mais vous avez aussi un certain nombre qui peuvent aller plus loin dans leur processus migratoire, demander l'asile, mais c'est de plus en plus compliqué vers l'Europe. On en trouve maintenant au Canada, aux États-Unis, même en Amérique latine, ça commence, on en trouve en Chine, au Japon, donc le Congolais a cette particularité, sans doute due à la mobilité internationale, de se retrouver sur tous les continents. Et naturellement, il y a aussi tout ce qu'on appelle la diaspora, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont quitté le pays pour trouver un emploi, qui ont été recrutés par une entreprise dans un pays où ils ont étudié, où ils ont voyagé. On parle de 7 millions de Congolais qui vivent à l'étranger. Il y a une commission qui travaille sur ces aspects et qui veut regarder tous les mécanismes par lesquels les Congolais de l'étranger peuvent s'orienter vers le développement du pays.
Justement, c'est une dernière question que je voudrais me poser. Vous parlez de la diaspora. On sait que la diaspora a quand même un flux important d'investissement vers le pays. Et je pense aussi, vous l'avez dit, le gouvernement y met une attention tout à fait particulière au développement du pays. Comment votre organisation peut-il aider le gouvernement à faire venir ces flux de capitaux ici dans le pays?
D'abord, il faut reconnaître que même sans nous, il y a énormément de mécanismes qui sont mis en place par les associations de la diaspora congolaise. Donc eux-mêmes lancent des mécanismes par lesquels ils promeuvent l'investissement, surtout dans la construction, par exemple de maisons où ils se voient à l'âge de la retraite revenir dans le pays. Donc ils investissent eux-mêmes, par eux-mêmes, sans nécessairement passer par des structures. Mais ceci dit, il y a maintenant pour l'instant un travail qui est fait par mon organisation d'analyse des moyens de mettre en place un fonds d'investissement qui serait financé partiellement par le gouvernement, partiellement par la diaspora, et le fonds auquel pourraient avoir recours les populations ici pour faire des emprunts à des taux préférentiels pour pouvoir investir dans des mécanismes de création d'emplois, donc de petites structures.
Monsieur Debout, je vous remercie.
Je vous remercie.
En bref, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a effectué la semaine dernière une tournée dans les quatre pays d'Afrique les plus touchés par l'épidémie d'Ebola, la Guinée, le Libéria, le Mali et la Sierra Leone. Objectif de cette tournée, voir les actions entreprises contre cette épidémie et afficher sa solidarité envers les personnes les plus affectées. Le bureau de la MONUSCO a participé jeudi dernier à la réunion d'analyse du plan de contingence suite au processus des éléments du FRPI. Selon plusieurs sources, les miliciens du FRPI et leurs dépendants sont déjà rassemblés à Aveba. Ils n'auraient plus d'assistance alimentaire et logistique en attendant leur adhésion au processus DDR. Et puis le PNUD annonce le début à Bounia des préparatifs de l'opération de marquage des armes en RDC. Cette opération est la réponse de la RDC dans la mise en œuvre de la recommandation du Conseil de sécurité consistant à mener à bien le marquage de toutes les armes conformément au protocole de Nairobi pour la prévention, le contrôle et la réduction des armes légères dans la région des Grands Lacs.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Madame Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, était mardi 16 décembre dernier en visite de travail en République démocratique du Congo. Elle était accompagnée de l'envoyé spécial des Nations Unies pour l'éducation mondiale, l'ancien Premier ministre britannique Gordon Brown. Nous revenons sur les enjeux de cette visite avec le représentant de l'UNESCO en République démocratique du Congo, Abdourahamana Diallo, qui est notre invité s'entretient avec Honoré Missenga Kalala.
Monsieur Diallo, bonjour.
Bonjour.
Mardi dernier, la directrice générale de l'UNESCO a effectué une visite en RDC. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce bref séjour de Madame Irina?
Effectivement, la directrice générale de l'UNESCO était ici en visite conjointe avec l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'éducation mondiale, Monsieur Gordon Brown. Ils étaient en visite à l'invitation du gouvernement congolais. Cette visite s'inscrivait dans l'agenda éducation. Elle fait suite à plusieurs échanges entre les plus hautes autorités, en particulier le Premier ministre et Madame Bokova, la directrice générale de l'UNESCO, au cours des précédentes conférences internationales qui ont eu lieu notamment à Oman et à Bruxelles sur le partenariat mondial pour l'éducation. Donc les deux plus hautes personnalités à l'heure actuelle en charge de l'éducation, la directrice générale elle-même à la tête de l'UNESCO et l'envoyé spécial mondial, se sont engagés à venir en terre congolaise pour constater de visu in situ et rencontrer les autorités et les forces vives de la communauté éducative pour les encourager dans cette longue bataille pour l'éducation. La question centrale au cours de cette visite, c'était comment s'assurer que tous les enfants congolais vont à l'école. Il y a à peu près 3 500 000 enfants congolais qui ne sont pas à l'école. Le gouvernement s'engage là à réduire ces 3 500 000 de moins 2 millions sur les prochaines années là, qui arrivent.
Et l'un des temps forts de cette visite, c'était le lancement du projet CIFIT. En quoi consiste ce projet?
Oui, l'une des grandes activités a marqué le lancement d'un projet sur la formation continue des enseignants avec l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Le gouvernement congolais s'est aussi engagé dans un grand programme de construction de classes, 1000 écoles par an. Ce programme a commencé en 2014. Il y a eu plus de 500 écoles qui ont été déjà construites ou réhabilitées. Mais les écoles, on les remplit d'enfants, c'est l'accès, on construit les bâtiments, mais il faut aussi avoir de bons enseignants. Il faut avoir des enseignants formés. Mais un enseignant, même quand il est en fonction, il se doit de continuer à se former pour se mettre à jour. Donc ce projet, c'est un projet de formation continue des enseignants. Et c'est un projet qui bénéficie du financement de la coopération chinoise via l'UNESCO.
Mais ce projet ne concerne que 4 500 enseignants de trois provinces. Vous ne pensez pas que cet échantillon-là apparaît comme une goutte d'eau? La RDC compte plus de 500 000 enseignants.
Tout à fait. C'est effectivement une goutte de 500 000 enseignants, c'est considérable. Mais il ne s'agit que d'un début. Grâce au financement donc de la coopération chinoise, nous avons pu développer l'architecture de ce dispositif national qui a été validé au niveau national comme le dispositif de formation continue au niveau national. Et les trois provinces bénéficiaires du projet CEFIT pour cette première phase sont Kinshasa, la province de Bandundu et la province orientale. Province orientale où en particulier on va travailler avec l'IFSEPS qui est l'institut de formation des inspecteurs et avec une cible de 4 500. Ce n'est qu'un début. Maintenant, nous invitons d'autres partenaires bilatéraux, multilatéraux, voire privés à se joindre à nous pour mutualiser les ressources financières pour étendre cet exercice dans les autres provinces.
Oui, apparemment le gouvernement attend un peu plus d'engagement de la part de l'UNESCO. Dans son intervention, le ministre de l'Enseignement primaire secondaire a émis le vœu de voir l'UNESCO étendre son appui dans d'autres provinces.
Tout à fait, nous l'avons bien entendu. Nous continuons à rechercher de nouvelles sources de financement. Et au niveau aussi du gouvernement lui-même, on va voir comment ils peuvent sécuriser, au même titre que nous l'avons dans le cadre du programme PRIR de construction et de réhabilitation des écoles, le gouvernement a mobilisé à peu près 100 millions de dollars et le gouvernement s'est engagé à le faire pour chaque année. Donc il y a une capacité forte de mobilisation. Là, pour la construction, nous allons aussi voir dans quelle mesure le gouvernement peut mobiliser des ressources aussi importantes pour la formation continue et initiale des enseignants.
Monsieur le représentant, il n'a pas été question que de l'enseignement primaire et secondaire. Madame Irina Bokova a évoqué également le problème de l'enseignement supérieur en proposant la création d'un centre de planification éducative au niveau des institutions de l'enseignement supérieur et universitaire. Pourquoi ce centre et quand verra-t-il le jour?
Ce n'est pas la directrice générale qui l'a souhaité, c'est le gouvernement de la République démocratique du Congo qui a souhaité la mise en place ici en RDC d'un centre de formation des planificateurs. Pourquoi ? on s'est rendu compte, depuis des années, la RDC investit et finance la formation de nombreux cadres qui vont notamment à Paris, où il y a le centre de l'IEP, qui est le centre de l'UNESCO qui est en charge de la planification, et les cadres sont formés. Mais malheureusement, on se rend compte que nombreux parmi eux ne reviennent pas au pays. Et ça fait là des décennies que le pays investit dans cette formation. On se dit, mais pourquoi ne pas apporter la formation in situ au niveau du pays? Et ainsi, nous allons diminuer le taux de fuite de ces cadres formés pour le pays. C'est ainsi qu'il y a eu cette réflexion. Si nous avons un centre qui est ici et que nous formons ici une masse critique de cadres spécialisés dans la planification, dans le domaine de l'éducation, nous aurons un taux, en tout cas, de rétention beaucoup plus important au niveau national. Et ce centre, s'il fait ses preuves, pourra avoir même une vocation régionale.
Oui, vous dites ainsi, ce centre est là. Qu'est-ce que l'UNESCO peut faire pour que ce centre soit effectivement créé ici?
Ben écoutez, nous sommes très avancés. Il y a eu plusieurs missions du siège ici. Il y a un comité national qui a été mis en place. Donc, les discussions sont très avancées. Il y a un projet document qui est déjà prêt avec un financement. L'UNESCO va s'engager pour près de 80% d'ailleurs des fonds dans le cadre du lancement. Ces fonds sont disponibles. En tout cas, la directrice générale soutient ce projet. Elle nous a donné toutes les instructions pour appuyer l'équipe nationale dans la préparation et la finalisation de cet état.
Merci, monsieur le représentant de l'UNESCO.
La nouvelle de province nous emmène au Katanga où 2500 ménages de déplacés du secteur de Kilwa sont bénéficiaires d'une assistance alimentaire, une action de l'ONG internationale Solidarité. Cette ONG a lancé mardi dernier un marché appelé la Foire aux Vivres au village Katendeji. C'est sur la route Kilwa-Dikulushi, comme nous l'explique Denise Maïro.
La Foire des Vivres sera organisée dans 4 sites du secteur de Kilwa, au bénéfice des déplacés vivant dans 10 villages. Selon l'ONG Solidarité, au total 2500 ménages seront assistés. Pour ce mardi, la foire de vivres a eu lieu au village Katendeji. Ici, l'opération cible 300 ménages. Plusieurs commerçants venus de la cité des Kilwa, sélectionnés par l'ONG Solidarité, ont mis en vente différents produits vivriers. Chaque ménage déplacé a reçu un jeton avec lequel il pouvait s'approvisionner. La quantité moyenne par ménage est de 72 kg de farine de maïs, 21 kg de haricots, 6 litres d'huile et 0,9 kg de sel. Cette foire a été organisée sous haute surveillance de la police, a indiqué de son côté le chef de poste de Kilwa. Car la nuit de ce dimanche, un groupe de Maïmaï a fait incursion à Katendeji et a incendié l'unique école primaire et blessé l'infirmier du groupement. Lubumbashi, Denise Maheur, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, le Sion aux Nations Unies.
J'ai lu de la radio Kaina, lundi dernier, qu'est-ce qui s'est passé vraiment à Bukavu-Bauma, à Kisangani? On parle de soulèvement des FDLR, ils étaient mécontents de leur manière d'hébergement. Il y a la deuxième version, et que les FRDC et les FDLR se disputaient les logis du camp.
Cette question a été posée à partir de Goma et c'est le colonel Félix Bass, porte-parole militaire de la MONUSCO, qui a répondu à partir de Kinshasa.
Il n'y a pas eu de problème a priori à proprement parler concernant les VLR et les populations. C'est un problème interne au FRDC concernant l'affectation d'un logement qui était initialement attribué à un officier FRDC à qui on a demandé de bouger pour l'attribuer à quelqu'un d'autre. Donc c'est un problème réellement interne qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a entendu dans la presse concernant cette histoire-là. Donc évidemment, l'intervention de la police s'est faite de manière très rapide et le calme est revenu. Donc il n'y a pas d'amalgame dans cette histoire-là. C'est un problème interne au FRDC.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Je suis Marie-Noël Nishika Kandolo, née Kalamba. Je suis mariée, mère d'une enfant. J'ai fait des humanités littéraires, dont option latin philo. J'ai terminé en 1999. Je suis détentrice d'une licence en droit économique et social de l'Université protestante au Congo depuis 2004. Je suis à l'UNESCO depuis 2006. Dans mes tâches quotidiennes, j'assiste les spécialistes de programme. Quand je parle des spécialistes de programme, c'est au pluriel. Parce que l'UNESCO a 5 programmes, notamment l'éducation, les sciences, la culture, communication et information. Et donc j'assiste les spécialistes de programme dans la recherche, la localisation, la compilation, l'examen et la mise des informations et des données utilisées dans l'élaboration des documents, des plans de travail, des budgets. Je mets à jour les plans de travail des données budgétaires validées dans le système informatique conçu à cet effet en s'assurant de leur exactitude et cohérence. J'appuie à la préparation des rapports dans le système informatisé et dans les exercices de mise à jour des données budgétaires régulières et ad hoc. J'assiste les spécialistes dans la préparation des rapports statistiques ou prévisionnels afin que le superviseur et les responsables puissent les utiliser ou les contrôler. Je prépare sur une base trimestrielle les plannings des activités suivant le format standard développé au sein du bureau et veille à sa mise à jour permanente. Je pourvois de la documentation informative sur les procédures administratives à l'usage des spécialistes de programme et m'assure de la stricte application par ceux-ci des règles et procédures administratives dans le cadre de la bonne exécution des différents programmes. J'établis les différents contrats, partenariats, les contrats de service, les consultations individuelles et assure le suivi de leur exécution, notamment sur les échéances convenues et la conformité des livrables, en d'autres mots, le respect des clauses des différents contrats. Je coordonne la préparation des événements, des réunions, ateliers, séminaires, retraites, dans les aspects administratifs et logistiques à savoir. La préparation des dossiers de voyage pour les participants, l'organisation des itinéraires, l'organisation de l'agenda, l'élaboration des budgets pour les prises en charge faites directement par l'UNESCO, ainsi que le suivi du déroulement sur terrain des différentes activités. En dehors de tout ça, il y a la réception, l'analyse, les tri et la distribution des courriers reçus, les différents documents et rapports qui concernent directement la mise en œuvre des programmes. Je prépare pour l'information du bureau une fiche synthétique sur une base mensuelle de l'ensemble des missions effectuées par le système et les consultants sous contrat. Voilà un peu, en gros, ce que je fais quotidiennement à l'UNESCO. Mon parcours professionnel avant cette agence UNESCO n'est pas énorme. J'ai terminé en 2004, je suis passée par 2 stages professionnels au Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et aussi en tant qu'assistante juridique dans une entreprise privée de la place. Pour mon temps libre, je le gère comme je peux, c'est-à-dire d'abord en dehors du travail qui me prend beaucoup de temps, je m'occupe de ma petite famille. Je peux entre ça faire les autres hobbies que j'aime, c'est-à-dire de la lecture, de la recherche sur Internet, du shopping, quelques virées entre amis, mais bon, le gros de mon temps, je le garde pour ma famille. J'aime bien le sport, c'est vrai, mais j'ai une préférence pour le tennis et la natation. Pour la musique, j'aime particulièrement la musique congolaise. Ça veut dire toutes les générations, toutes tendances confondues. Vous savez que ça, c'est une richesse de notre pays, donc j'aime bien cette musique-là. Et en plus de celle-là, on rajoute la musique étrangère, du zouk, du reggae, et tout ce que vous voulez. Plan nourriture, je ne suis pas très compliquée sur ce plan-là. Je mange tout ce qui se présente, mais je suis friande de la bonne cuisine. Comme tout le monde, les projets d'avenir, on en a. Aussi minimes soient-ils, c'est des projets. Et moi, personnellement, mes projets s'inscrivent pas forcément après l'UNESCO, mais dès à présent déjà. Pour le moment, j'aimerais bien parfaire d'autres études, j'aimerais bien rajouter à ce que j'ai un autre diplôme, c'est-à-dire faire un troisième cycle. Et parce que je suis déjà dans le système des Nations Unies, je vise une carrière internationale au sein des Nations Unies. Mais bon, laissez-moi quand même vous dire que jusque-là, je ne sais pas très bien comment je m'y prendrai pour la carrière internationale parce que quand on se renseigne, on trouve que les circuits sont tellement verrouillés, mais je finirai par accéder. Merci.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
un seul rendez-vous à retenir. Notez-le quelque part, car c'est dans 3 semaines, le temps de vous laisser passer les fêtes de fin d'année, la journée mondiale du migrant et du réfugié, une journée consacrée chaque 15 janvier. Ainsi s'achève ce magazine des Nations Unies. Julien Nyamweni l'a supervisé avec l'appui de Jean-Pierre Elali et Honoré Missenga. Dieudonné Nyangasa la mise en onde. Vous l'avez suivi. Merci. Et le prochain rendez-vous est donc pris pour le 11 janvier 2015. En attendant, vous aurez droit à 2 rediffusions les dimanches 28 décembre 2014 et 4 janvier de l'année prochaine. L'équipe de magazine des Nations Unies vous souhaite joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2015 à toutes et à tous.